Aujourd'hui, à Rencontre spirituelle, c'est l'anniversaire un peu spécial du décès de, de Torquemada, Thomas de Torquemada, qui est mort en 1498, ça va être le centenaire l'année prochaine. Lui qui a été le grand inquisiteur d'Espagne, et ça rappelle tous les problèmes de l'Inquisition. On peut se demander pourquoi je parle de cet homme. C'est que j'aimerais bien restituer un peu la valeur de cet homme en dépit de ses défauts, mais surtout en finir un peu avec les exagérations qu'on fait au sujet de l'Inquisition, des exagérations tellement insensées que je ne cesse de m'attaquer à ça depuis des années. J'avais commencé à la télévision, à Radio-Canada, à l'émission Rencontre, en interviewant Jean-Pierre de Dieu, D-E-D-I-E-U, comme Saint-Jean de Dieu, mais c'est une autre famille de Dieu en France. Et Jean-Pierre de Dieu, qui est un spécialiste de cette question et qui est au Centre national de la recherche scientifique à Paris, s'est penché sur cette question, a publié même un ouvrage que je vous recommande très fortement, qui est publié chez Fides, et aux éditions du Cerf aussi à Paris, simultanément. C'est l'Inquisition de Jean-Pierre de Dieu. C'est dans la petite collection Bref. Hein, ce sont des petits livres qui se vendent à peu près une dizaine de dollars. Et dans ce petit livre, on peut dire qu'il aborde la question de façon tellement intelligente et tellement claire que je vais vous en citer à certains moments des passages à ma façon un peu. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Quand je l'avais invité à l'émission Rencontre à la télévision de Radio-Canada il y a bien des années, Jean-Pierre de Dieu avait osé dire les choses franchement. C'est que finalement, c'est une immense chose que l'Inquisition, et pourtant, pour les inquisiteurs, ces dominicains qui sont affublés de tous les torts, car ce sont les dominicains surtout qui ont été chargés de l'Inquisition dans les plus graves moments, bien pour eux, les dominicains, et pour l'ensemble des religieux ou des évêques qui s'occupaient de cette question-là, conduire quelqu'un au bûcher, c'était un échec. Et ils en ont conduit si peu qu'on reste surpris devant les chiffres insensés qu'on nous sert souvent. Exemple. Dans le journal Le Devoir, il y a de nombreuses années, Michel Solomon, un juif, Dieu est son âme, un juif roumain qui a beaucoup souffert au temps de l'Holocauste, racontait sans sourire, sans qu'on ose dire quoi que ce soit contre lui, qu'il y avait eu 5 millions de morts en Espagne à cause de l'Inquisition. Combien y en a-t-il eu? En 600 ans, il n'y en a même pas eu 1000. Selon les travaux les plus sérieux des spécialistes qui se sont penchés sur le problème de l'Inquisition. Je sais bien qu'un seul mort dû à des raisons comme celle-là est une horreur. Une vie humaine, c'est une vie humaine. Mais encore faut-il tenir compte des circonstances, de l'époque, et on se rend compte que l'Inquisition, en dépit de ce mot qui nous fait peur, moi-même, quand je prononce le mot Inquisition, je vois des horreurs tellement j'ai été entraîné depuis mon enfance. Il faut quand même se calmer un peu. Dans son livre Jean-Pierre de Dieu, consacré à l'Inquisition, je vous rappelle, dans la collection Bref, aux éditions du Cerf et de Fides, raconte vers la fin que dès le 18e siècle, l'Inquisition était devenu un symbole plus qu'un instrument efficace de répression. Car l'Inquisition, pour ceux qui se demandent ce que c'est la répression, particulièrement en Espagne, avant cela dans le sud de la France, mais aussi au Portugal, en Italie, en Allemagne, et même en France, donc dans le sud de la France, oui. C'est une forme de répression à la fois politique et religieuse, contre des gens qui se séparent du groupe ou qui sont trop nombreux, semble-t-il, pour pouvoir s'assimiler, et on considérait à l'époque que la meilleure façon de réunifier un pays, c'était que tout le monde croit à peu près la même chose, et soit eux-mêmes, non pas des objets d'inquiétude, mais des gens qui sont dans l'ordre des choses. C'était la conception du temps, ce n'est plus du tout aujourd'hui, on l'a bien vu avec Mère Teresa, qui a soigné tout le monde, qui a aimé tout le monde, et tout le monde lui a manifesté son affection, que les gens soient d'abord catholiques évidemment, mais protestants, anglicans, musulmans, hindouistes, bouddhistes, etc. C'est le grand rêve de l'amour universel. Mais bon, ce n'est pas avec l'Inquisition à la même époque. Car l'Inquisition, ça commence très tôt. Quand on donne les dates, les gens restent surpris. Ça s'étend sur une longue période et ça commence, à vrai dire, vers l'an 1200, à peu près, n'est-ce pas? Et puis, on peut dire qu'en 1179, il y a une condamnation de doctrine vaudoise et doctrine protestante, pré-protestante. Puis, d'une certaine façon, il y a Saint François qui se retire du monde en 1206 et qui va entraîner à sa suite certaines personnes qui vont exagérer et qui vont être réprimées. Mais ça n'est pas très très grave, les fraticelles. Et puis, en 3 ans après d'ailleurs Saint François, en 1209, il y a le début de la croisade dite des Albigeois, c'est dans le sud de la France. C'est les gens qui ne peuvent plus endurer les cathares, mais il faut expliquer pourquoi les cathares n'étaient pas endurables. C'était des manichéens, c'est-à-dire des gens qui croyaient à un dieu du mal, à un dieu du bien, et qu'il fallait mieux se laisser mourir et ainsi tuer son corps, pervers, méchant, il n'y avait que l'âme dans la prière qui pouvait être bien, et le reste était mauvais. Considérer, c'est une façon abominable de considérer le corps et de considérer le mariage par conséquent et tout le reste. Je simplifie un peu pour faire comprendre parce qu'on n'a pas grand temps. Et c'est en 1231 à peu près, 1234, qu'il y a la fondation de l'Inquisition. Il y a la nomination d'inquisiteurs en Allemagne, en France, en Italie. Et puis, il y a à certains moments des inquisiteurs qui sont assassinés, comme Saint-Pierre de Vérone, qui était Saint-Pierre martyr, comme on l'appelle, qui était assassiné en 1245, car il y a des gens qui se révoltent contre l'Inquisition, qui est beaucoup moins sévère, je tiens à le répéter, que ce que l'on dit, que ce que l'on pense. Et puis, finalement, surgit, pour faire vite, tout le problème de la libération de l'Espagne. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que les Espagnols, dirigés par, depuis 1469 à la suite d'un mariage, par les rois catholiques que l'on appelle Ferdinand, héritier de la couronne d'Aragon, et Isabelle, héritière de la couronne de Castille. Vous voyez, il y avait deux pays, l'Aragon, la Castille, et c'est le point de départ de l'unité de l'Espagne. Unifier un pays, ça n'est pas facile. Quand le pays a été occupé pendant très longtemps par des envahisseurs, ce sont les Arabes, les musulmans, qui se sont installés en Espagne depuis des siècles. Et alors, dans la conception qu'on se fait du temps, une minorité trop nombreuse, on n'arrive pas à accepter cela facilement. On s'inquiète devant ça. Il y a finalement la prise de Grenade en 1492, au moment de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et c'est l'achèvement de la reconquête de l'Espagne sur les musulmans. Et puis, on décide aussi de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Il y a 600 000 étrangers qui ne se sont pas assimilés aux Espagnols. On ne parle pas simplement de s'assimiler par la religion, mais de s'assimiler par leurs mœurs, Il y avait quand même des rapports assez forts entre ces populations-là, mais à l'époque, on était encore plus sensible qu'on l'est aujourd'hui devant les différences. Et alors, 1496, c'est l'expulsion ou la conversion des Juifs du Portugal. C'est Portugal étant sur la même péninsule que l'Espagne, comme vous savez, c'est un pays qui devait faire partie de l'Espagne, ça devait devenir une province, mais les Portugais ont résisté, c'était des, comme on dirait, des séparatistes. Ils ont voulu leur propre indépendance, ils sont demeurés portugais plutôt que, comme les gens de l'Aragon et de la Castille, ils n'ont pas voulu devenir des Espagnols. Et puis, finalement, il y a la conversion forcée au christianisme des musulmans de Castille, puis d'Aragon, et puis, toute la naissance d'un problème. C'est de citoyens qui font semblant d'être convertis. Et à cette époque, on n'acceptait pas ces choses-là. Vous savez, c'est difficile de comprendre comment des gens réagissaient devant toutes ces questions. Mais de toute façon, tout cela a duré jusqu'au début du 19e siècle, on peut dire, mais depuis longtemps, il n'y avait pas de condamnation terrible. Vous savez que quand on condamne, mettons, Galilée par l'Inquisition en 1633, on le fait résider dans une belle maison, on lui permet de d'écrire, on lui permet de recevoir. Ce n'est pas une condamnation si abominable que ça. Je voudrais donc en finir avec l'Inquisition en vous disant que il est surprenant de constater que l'intérêt qu'ont les gens quand on leur dit le mot inquisition, on pense surtout au cathare, qu'on voudrait sanctifier, alors que je vous ai dit combien c'était une hérésie abominable, invraisemblable, et l'inquisition espagnole, dont on a grossi grandement l'importance, particulièrement au siècle dernier, grâce à toute une propagande anti-catholique. Je vous ai dit au début qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès de ce grand inquisiteur, Thomas de Torquemada. C'est le fils de Pierre Ferdinand de Torquemada et neveu du cardinal Juan de Torquemada, de son vrai nom, Juan de Torrecremata, peu importe. Thomas de Torquemada est né en 1420 à Valladolid, en Espagne. Il est mort le 16 septembre 1498. Il est entré dans l'ordre de Saint-Dominique, chez les Dominicains, puis il est devenu petit à petit le confesseur, puis le conseiller intime des rois catholiques Ferdinand et Isabelle. C'est eux qui ont obtenu du pape Sixte IV, le 1er novembre 1478, la création d'un tribunal de l'Inquisition en Espagne. Et cessez de vous imaginer qu'un tribunal de l'Inquisition, c'est une pure horreur. C'est vrai que c'est une horreur, mais pas aussi épouvantable que le mot, même dans mon imagination à moi, fait ressentir. Faut lutter contre ça. Parce que eux, ils voulaient vaincre les résistances nationales des Juifs et des musulmans pour s'assurer de la sincérité des convertis. C'était la coutume à l'époque. Et pour donner au royaume, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'unité de la foi. C'était comme ça, vous savez, en Allemagne, avec les protestants, tout le monde devait être luthérien. À Genève, sous Calvin, tout le monde devait être calviniste, et Calvin en a exécuté des gens qui voulaient pas l'être. C'était comme ça à l'époque. C'était la conception nationale. On se faisait des idées comme celle-là. Et pensez aujourd'hui à ce que fait la police par rapport à des gens qui se rangent pas, qui n'ont pas l'air d'être rangés. Prenons un petit exemple local, simplement à l'égard des punks et de gens qui se conduisent plus ou moins bien et qui ne font pas vraiment du mal. Parfois, notre police, mais pas notre police, je dirais, mais quelques policiers, sont parfois très durs. Eh bien, le tribunal de l'Inquisition a d'abord été dirigé par le provincial des Dominicains, son vicaire, et puis leur sévérité relative a été blâmée immédiatement par le pape de Sixte IV. Il a écrit trois bulles à ce sujet, c'est-à-dire trois lettres très importantes pour les avertir qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à croire, qu'on n'a pas le droit de traiter sévèrement quelqu'un qui est différent de nous. C'est le 29 janvier, je vous donne les dates, 29 janvier 1482, 23 février et 2 août de l'année suivante, 1483. On réunit alors tous les pouvoirs dans les mains d'un grand inquisiteur, là, qui va être chargé de la direction suprême du tribunal, de la nomination des juges délégués, puis de l'examen des appels, parce qu'ils ont droit à des appels. Les procès pouvaient être très longs. Hein. Et ce fut donc notre Torquemada, dont c'est l'anniversaire du décès aujourd'hui, qui est devenu le grand inquisiteur du royaume. Et en vertu des droits qui lui étaient conférés, bien, il a créé à Séville, à Cordoue, à Gênes et à Villarreal, 4 tribunaux subalternes, dont le premier était transféré plus tard à Tolède. Là. Mais, avec le consentement des deux pouvoirs, c'est-à-dire l'Église et l'État, bien, Torquemada a institué un conseil suprême, chargé de surveiller les tribunaux du royaume, puis de contrôler leurs jugements, de faire attention. Il voulait pas abuser, lui. C'est surprenant à dire, mais c'est quand on va au fond des choses qu'on s'aperçoit que s'il était sévère, d'accord, il n'était pas ce monstre abominable. Ou du moins, il était moins monstrueux qu'on ose le dire. Je m'excuse d'essayer de ramener les choses à leur vérité, mais il faut quand même, en histoire, avoir le sens de la vérité. Hein? En 1484, donc, après les avertissements du pape Sixte IV, là, en 1484, en 1485, en 1488, il convoque des assemblées générales pour spécifier là, les instructions nécessaires aux juges et à leurs assistants. Il veut que ça se fasse dans l'ordre des choses. Et l'ensemble de ces prescriptions, qui sont jointes à celles des grands inquisiteurs postérieurs, forment un code qui est paru à Madrid en 1576 avec un titre assez long. Mais aujourd'hui, quand on lit ça, on peut le lire dans certains livres, c'est en résumé, je ne vous ferai pas le résumé. On s'aperçoit qu'il y a un aspect assez impitoyable, mais un développement, je dirais, du sens de la justice. Ça vous semble curieux, hein? Disons le commencement d'un code criminel. Parce que ça n'existait pas beaucoup. Dans ce temps-là, on tuait, on assassinait, on exécutait pour un rien. Ça se faisait en Angleterre, avec Henri VIII, ça se faisait partout. Torquemada a exercé, donc, son autorité avec une rigueur impitoyable, qui a soulevé contre lui l'opinion publique, mais impitoyable dans la mesure de l'époque, qui était, les gens étaient quand même facilement révoltés devant à peu près la moindre chose. Ils avaient un profond sentiment chrétien. Les rois catholiques ont dû lui accorder une escorte, même parfois, de 50 familiers à cheval, de 100 archers, des archers à pied, pour protéger sa vie. Et le pape Alexandre VI, à un moment donné, cet effroyable pape Borgia, est intervenu à plusieurs reprises, notamment en 1494 et 1498, savez-vous, pour restreindre l'usage de son autorité. Alors, le pape que l'on juge méchant, le pire pape, dit-on, de l'histoire, pouvait être bon. C'était chose à apprendre, il faut le savoir, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Il y a souvent des grisailles, ça passe du plus blanc au presque noir. Hein. Et Torquemada, lui, le grand inquisiteur, demeure dans l'histoire quand même le symbole et le type de l'inquisiteur violent, mais c'est exagéré en bonne partie. D'ailleurs, un écrivain, Laurent T., a prétendu que le nombre de ses victimes s'élevait à 114 000, ce qui est absolument insensé, dont 10 000 brûlés à la suite de divers autodafés. Mais d'autres critiques, et des plus sérieux, comme F.L.E. autrefois et Gams, on réduit ça à 10 000 et même à 2 000. Vous voyez qu'on baisse de 114 000 à 2 000. Comme quoi, il ne faut pas croire tout ce qu'on lit. Et déjà des historiens sérieux des années 10 et 15, au début de notre siècle, estiment que le nombre total des exécutions capitales pendant toute la durée de l'Inquisition en Espagne, c'est-à-dire de 1478 à 1758. Ça fait combien d'années, ça? Calculez un peu. 180 ans? 280 ans? Eh bien, ça n'a pas dépassé 4000 condamnations. Vous direz, mais c'est quand même 4000 condamnations. Je suis tout à fait avec vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une seule condamnation est une horreur. Mais dans ces condamnations-là, il y avait la condamnation de bandits, de voleurs, d'assassins et de gens qui avaient fait des crimes contre la simple justice ordinaire. Et tout ça s'est déroulé sur des périodes immensément longues. Je vous demanderai, puisque je vais en finir avec l'Inquisition, de bien réfléchir à ce qui s'est passé durant notre siècle. Des dizaines de millions d'exécutions. Pensez à Pol Pot. Pensez à Staline. Pensez à Hitler. Et pensez aussi à ces mécréants d'Amérique du Sud ou d'ailleurs. Et pensez ici à ceux qui parmi nous, des gens de notre pays ici qui torturent. Oui, ça arrive. Bon, ce sont des petites tortures ici dans notre pays. Il faut s'en plaindre quand même, se révolter devant ces excès. Mais je crois qu'il y a une parole dans l'Évangile qui nous rappelle qu'il faut regarder la poutre qu'on a dans l'œil avant de regarder la paille dans l'œil du voisin. L'Église espagnole du 15e siècle, elle est sortie grandie de toutes sortes de guerres de reconquête et elle a fourni à la société une grande inspiration dans le domaine artistique et spirituel, il faut bien donner ça à l'Espagne. Elle n'a pas su résister à l'entraînement de la victoire. Elle a imposé, c'était la coutume à l'époque aux catholiques, le respect de certains principes, mais elle est d'autre part un peu affaiblie à l'intérieur par tous ces gens qui partent pour le Nouveau Monde. Partent beaucoup de ses meilleurs éléments, même dans la famille de Sainte Thérèse d'Avila. On voit ça dans la vie de Sainte Thérèse d'Avila, qui sera fêtée le 15 octobre prochain. Et lorsque la chrétienté a pris la relève de l'islam en Espagne, l'islam qui était installé là, qui avait conquis une partie de l'Espagne, qui avait essayé de conquérir toute l'Europe, eh bien, lorsque la chrétienté a pris la relève de l'islam, dans le peuple chrétien d'Espagne, existait quand même une forte procession de juifs conversos. C'est comme ça qu'on les appelait. C'est des juifs qui donnaient toutes les impressions d'être convertis, mais qui ne l'étaient pas. Ils étaient riches, ils étaient entreprenants, ils étaient intelligents, mais ils sont l'objet de soupçons de la part des anciens catholiques, là. Et ça, ce conflit a été à la base de l'instauration de l'Inquisition, comme je vous ai dit, mais je tiens à revenir là-dessus. Il nous faut retenir que ce conflit ne naît pas d'une opposition entre chrétiens et juifs. Non, non, non. Mais entre chrétiens d'origine castillane, une région, là, la Castille, puis des chrétiens d'origine juive. Et ce conflit ne naît pas d'une hérésie, mais d'une suspicion. C'est une suspicion. Parce que les conversos, les juifs conversos, sont accusés sous le nom de Maranès, qui n'est pas très gentil, ça veut dire pourceau, d'adhérer en secret au judaïsme. Et la même suspicion existe pour les chrétiens d'origine arabe, qui sous le nom de murisques sont accusés de fidélité quand même à l'islam. Et à la fin du 15e siècle, donc au moment de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, il se crée des comités de défense sur la base de la pureté du sang et l'autorité épiscopale, là, au début, s'oppose à ce mouvement, mais les rois catholiques ont conçu leur mission d'unification de l'Espagne, unification nationale, comme devant reposer sur la base de l'unité religieuse. Et ils ont adressé une requête dans ce sens-là auprès du pape. Et nous verrons tout à l'heure le développement de cette conception qu'on avait à l'époque des pays. C'est tout récent que l'on permet dans des pays des mélanges de religions et de populations avec une telle facilité. Aujourd'hui, je vous parle de quelqu'un qui a cru pouvoir donner un sens à sa vie, Torquemada, mais qui a été pris dans des moments de l'histoire, dans des événements tragiques, difficiles, que j'essaie de vous expliquer pour essayer de vous montrer que si c'est terrible, c'est beaucoup moins terrible que la plupart des gens veulent bien nous dire. L'autorité du pape, donc, est mise en question devant les procès que l'on fait aux juifs conversos et aux musulmans murisques qui sont accusés tous deux, en dépit de leur conversion, de rester attachés à leur ancienne religion. Il y a des excès qui sont commis. Et le pape, dans des bulles, comme je vous ai dit, réclame l'entrée en fonction d'un contrôle épiscopal sur l'inquisition royale, car c'est une inquisition royale et non pas une inquisition vraiment ecclésiale. Et il donne possibilité aux inculpés d'avoir recours à Rome même pour pouvoir se défendre. Vous voyez là un commencement de code criminel et de sens de la justice. On peut s'adresser jusqu'à la Cour suprême qui est à Rome. Et la monarchie ne donne pas suite aux réclamations du pape. Le pape se laisse finalement un peu forcer la main. Mais désormais, l'Inquisition d'Espagne est une inquisition royale dans laquelle le pape s'efforce sans grande efficacité de jouer un rôle de modérateur. C'est le pouvoir civil qui mène finalement. Et Sixte IV, nouveau pape, permet même à Isabelle la reine d'Espagne de nommer elle-même un inquisiteur général avec juridiction. C'est ce dominicain dont je vous ai parlé, l'administrateur remarquable quand même, Torquemada, qui impose une forme de dictature sur les services de l'inquisition. Les exécutions se chiffrent difficilement. Je vous ai dit tout à l'heure, on a parlé de 2000 personnes sur une assez longue période. D'après certains travaux récents, ces chiffres seraient absolument exagérés, je vous le répète pour ceux qui n'auraient pas entendu au début. Ça se compare mal avec les dizaines de millions de ce siècle-ci, hein, chez les athées. Et non content de poursuivre les conversos, les juifs conversos, Torquemada obtient des expulsions. Parce qu'il ne veut pas les tuer, il préfère qu'ils s'en aillent. D'ailleurs, certains vont aller s'établir auprès du pape à Rome pour faire des demandes de que les conversos d'Espagne soient mieux traités. Et le pape les reçoit. Après 1492, donc l'année de la découverte de l'Amérique, l'Inquisition royale, je dis bien royale, hein, donc une Inquisition civile, si vous voulez, codifie les principes racistes sur lesquels elle fonde toute sa répression. Et puis, elle nourrit la mentalité populaire d'hostilité au judaïsme, la persécution des juifs. Quelle horreur! Quelle horreur! C'est civil, ça. C'est pas l'Église, là. Et l'implantation de l'Inquisition rencontre une longue résistance dans l'Espagne du Nord. Mais cette opposition aux tribunaux de Torquemada, du cardinal Torquemada, n'est pas purement religieuse. Elle s'attaque surtout aux procédures vraiment épouvantables qui sont contraires aux chartes démocratiques. Les chartes démocratiques, déjà à l'époque, qui garantissent les droits des prévenus. Alors on voit s'exercer petit à petit tout un code criminel, grâce à la population, mais grâce aussi à l'Église, grâce au pape. Et les provinces du Nord n'acceptent jamais l'Inquisition en Espagne, même quand le roi Ferdinand tente de la leur imposer. Et Barcelone, cette ville catalane que vous connaissez, qui donne sur la Méditerranée près de la France, expulse la commission inquisitoriale. Puis la noblesse d'Aragon est exaspérée et, imaginez, ils mettent à mort à Saragosse l'inquisiteur Pedro de Arbues, qui était un très bon inquisiteur. Mais parce qu'il était inquisiteur, ils le mettent à mort. Et cet homme, qui était un homme pieux et bon, est canonisé depuis 1867. Vous direz, comment un inquisiteur va-t-il être bon? Oui. Mais oui. Il est fêté le 12 septembre, lui, Saint Pedro de Arbues. Ailleurs, à Séville en particulier, il y a des actes de foi qu'on appelle en portugais les autodafés. Il embrasse soudain le ciel et pour longtemps. Et l'autodafé, c'était avant tout un spectacle, haut en couleur. Il y avait de la cruauté là-dedans. Il y avait aussi le goût du décorum, qui se mêlait de façon étrange. En Espagne, comme au Pérou, l'Inquisition déployait toutes sortes de fastes, de cérémonies. C'était à la fois humain et inhumain. Ainsi que toute la société de cette époque, hein, pensez aujourd'hui aux émissions qu'on voit à la télévision où des hommes se battent à coups de chaise, les combats de boxe horribles. Est-ce que vous regardez ça sur le câble? Moi, ça m'arrive de tomber là-dessus et de rester là 2-3 minutes et de prier pour que tout ça s'arrête. C'est une horreur. Nous avons des spectacles immenses, des foules de jeunes, ils ont 10 ans, qui crient comme des perdus, espérant que les lutteurs vont se massacrer et au besoin se tuer. Et qui sont tous ces jeunes qui vont à des courses de voitures dans l'espoir qu'un des coureurs se tue? Nous vivons encore à une époque de barbares et ne nous en rendons même pas compte. Et nous ne voyons pas la poutre dans notre œil et nous accusons les autres parce qu'ils ont une paille dans l'œil. Vous direz que j'exagère. C'est pas la même chose. Mais regardez notre siècle, je vous le rappelle encore. En quelques dizaines d'années, nous avons tué 100 millions de personnes. Et nous continuons à tuer, je le dis souvent, nos enfants avant qu'ils ne naissent. Si bien que les gens qui veulent adopter un enfant ici au Québec doivent partir pour la Chine et dépenser 25 000 $. Car tous nos enfants à peu près meurent. C'est un immense carnage. En Espagne, comme au Pérou d'ailleurs, on pratique donc tout ça avec faste. C'est populaire, beaucoup trop populaire jusqu'au 18e siècle. Il y avait là des commérages mondains, des jalousies. Puis, tout ça, ça amusait les gens. Un peu comme les exécutions qu'on avait ici à Montréal jusqu'au siècle dernier. Des exécutions en public. Ça se faisait un peu partout. On exécutait des pauvres gens souvent, des minables, qui étaient condamnés à mort. C'est horrible quand on y pense. Mais nous aussi, hein, nous sommes coupables. C'était des moments tragiques, et les moments tragiques perdurent dans notre humanité. Il faut établir une civilisation de la charité, comme dit le pape. Combien Jean-Paul II a raison, qu'il l'écoute. L'Inquisition a échoué dans sa mission de maintenir à leur haut niveau là, les idéaux qu'elle faisait profession de servir. Hein. Qu'est-ce qu'elle voulait servir? Elle voulait servir la pureté de la foi, puis la décence des mœurs. Et beaucoup de ses fonctionnaires, petits et grands, se sont corrompus. Hein. Mais avec l'Inquisition espagnole, on perçoit nettement où peut aboutir une institution d'Église lorsqu'elle s'aligne sur la société d'une époque. Au lieu d'y introduire l'Évangile vivant. Et c'est ce qu'il faut faire, introduire l'Évangile vivant. Il y a des saints qui, à l'époque, ont essayé. Ils l'ont fait. Ça, c'est fait. Vous savez qu'il y a des saints qui ont transformé la société au cours des siècles. Mais ça se transforme jamais au complet. Ce qu'a vécu Mère Teresa, pensez-vous que ça transforme les pays qui vont se mettre à abolir la pauvreté dans tous les pays? Pensez-vous que les pays riches vont se mettre à partager leurs richesses avec les pays pauvres? Pensez-vous qu'à Montréal, tous les abandonnés dans les rues seront adoptés ce soir et coucheront dans une chambre? Pensez-vous que nos cœurs s'ouvrent suffisamment à la pauvreté, au malheur et à la souffrance des autres? Les gens sont tordus de douleur. Et nous passons à côté et nous allons à la messe. Nous allons travailler. Nous allons au concert. Nous allons au restaurant. Nous allons voir des amis. Nous passons à côté des malheureux. Qui sont les gens qui souffrent? Qui souffrent? L'Espagne, à la fin des guerres de reconquête, pour faire leur unité, connaît la situation de tous les pays qui sortent d'une lutte séculaire contre un ennemi héréditaire. Elle veut achever sa victoire. Comment? Ben, en s'affirmant maîtresse chez elle. C'était un sentiment normal qui existe encore aujourd'hui. Voyez, en Angleterre, ils ont des problèmes, ils se sentent moins maîtres chez eux. Et en Allemagne, et en France, et ici même à Montréal. Moi, je ne me sens presque plus chez moi où j'habite. J'habite devant le grand séminaire. Il est rare que je voie un Québécois. Il est rare. Je ne vois que des gens de toutes les parties du monde qui sont assez gentils, mais qui parlent presque tous l'anglais. C'est triste. Comment élever nos enfants dans un tel milieu? C'est difficile. Mais il faut bien accueillir ces gens qui viennent de pays pauvres où ils ont beaucoup souffert. C'est très difficile. L'ennemi pour l'Espagne est à la fois national et idéologique. Alors on va jeter un regard sur CIU, sur tous ceux qui n'appartiennent pas au pur catholicisme castillan. C'était la conception de l'époque. Conception insensée, mais conception tout à fait compréhensible quand on se met dans le sang et dans la peau des gens de l'époque. Ces phénomènes de racisme ont toujours existé, mais ils sont renforcés dans le cas présent, là, il y a 500 ans, par les guerres avec l'islam et par certaines tendances de l'arme espagnole. Très fier. Vous déjà allé en Espagne? Quel peuple admirable. Moi que j'ai beaucoup aimé. Le drame, c'est que l'Église ait si peu réagi à cette situation. Sans doute, elle l'a fait par la bouche des papes, de certains évêques, mais elle n'a pas su s'opposer efficacement, on peut dire, à la pression des rois catholiques, dont l'appui était si nécessaire pour christianiser le Nouveau Monde, il ne faut pas l'oublier. Puis, il fallait aussi contenir les musulmans d'Afrique du Nord, qui voulaient toujours remonter par l'Espagne pour conquérir la France et tous les autres pays. Et bientôt, il y a eu les États protestants qui se séparaient de l'Église. Alors, on comptait sur les rois catholiques d'Espagne pour défendre l'Église catholique à travers l'Europe afin de garder l'unité voulue par Jésus-Christ. Soyez un. Soyez unis. Alors, c'est une entorse à ses principes. Ça a entraîné, comme toujours, l'affaiblissement de l'Église. Parce que ça a lié le catholicisme à un certain nationalisme espagnol. Ça a préparé les difficultés que le catholicisme espagnol devait connaître plus tard. Mais qu'est-ce qui s'est produit au juste? Comment ça se fait que la propagande s'est emparée de tout ça pour jeter à la figure de l'Église et du monde entier l'impression que tout ça est encore pire que ce ne l'était? Je vous ai recommandé sur l'Inquisition tout à l'heure le livre de Jean-Pierre de Dieu dans la collection Bref. Je ne saurais trop vous recommander aussi le livre du même titre, l'Inquisition, de Henri Maisonneuve, paru chez Novalis. Novalis, vous connaissez ça, Montréal, c'est eux qui font ce merveilleux prion en église auquel je vous recommande de vous abonner. Abonnez-vous à l'édition mensuelle, ça coûte presque rien. Vous avez les prières du jour, même si vous n'allez pas à la messe, vous pouvez vous unir au pape, aux cardinaux, aux évêques, aux gens du monde entier, aux gens de votre paroisse, en priant chez vous les prières de la messe et en faisant la lecture, méditant l'évangile du jour. Ça vaut la peine, ça coûte presque rien, une quinzaine de dollars, et vous avez ça pour l'année. Prions en église. Eh bien, Novalis, qui publie ça, a publié l'Inquisition de Henri Maisonneuve. Je ne saurais trop vous recommander ce livre qui est excellent. Dans la presse, il y a quelques années, je lisais ceci, c'est en rapport avec Characters of the Inquisition, un livre très important de William Thomas Walsh, paru en 1940, et on nous raconte que durant le règne de Torquemada, comme inquisiteur général, il y a eu 100 000 personnes qui ont été jugées par le tribunal de l'Inquisition. Combien ont été graciés? La très, très, très grande majorité. Ou ils s'en sont tirés avec des peines mineures, de rien du tout. Tandis que d'autres étaient emprisonnés ou remis au bras séculier. Et d'après William Thomas Walsh, il y a eu moins de 1000 hérétiques qui ont été remis au bras séculier pour être brûlés. Moins de 1000 sur 100 000. Je dis pas que c'est merveilleux. Je dis que c'est moins grave que ce qu'on veut bien dire. Je suis fatigué d'entendre accuser l'Église continuellement en prononçant le mot « inquisition » quand on ne se rend même pas compte que l'athéisme et la barbarie de notre siècle a tué tellement de gens qu'on peut même plus savoir le nombre. 100 millions? 120 millions? On ne sait plus. Au XVIe siècle, il y a eu des écrits des Hollandais soulevés contre le roi Philippe II d'Espagne. Ces Hollandais protestants cherchaient à constituer autour d'eux une alliance des puissances protestantes. Alors la propagande, c'était l'une de leurs armes principales. Alors ils ont inondé l'Europe de tracts et de livres. Puis tous ces livres, ces tracts parlaient de la cruauté de ce tribunal, de l'Inquisition, que le roi et le pape avaient imposé à des sujets fidèles, les poussant à la révolte. Alors ces protestants-là ont reçu le renfort d'exilés espagnols comme Reginaldo Montes, qui était un pseudonyme d'un luthérien, qui s'était enfui de Séville lors de la grande persécution de 1558. Ils ont reçu l'aide aussi d'Antonio Pérez, dont nous connaissons les démêlés avec Rome. C'est aux inquisitions de Flandre, donc en Belgique d'aujourd'hui, puis et d'Espagne, que s'en est pris. Puis en dehors de cette littérature de combat, caractère absolument confessionnel, protestant, propre au pays protestant, le sujet n'eut qu'une fortune limitée. Il était difficile dans les contrées catholiques de critiquer une institution d'église. Il fallut attendre le 18e siècle, 1600 quelque chose, pour que le thème acquiert une résonance universelle. Grâce à qui? Grâce aux ceux qu'on appelle les philosophes. Alors là, pour bien parler de Voltaire puis de ses amis, une inquisition résumait tout ce qu'ils combattaient, ces gens-là. Pour eux, l'inquisition, c'était l'expression même du fanatisme, de l'intolérance, le contrôle des esprits par le clergé. Il y a une part de vérité là-dedans, mais c'est très exagéré que d'exagérer comme ça. C'était aussi pour eux une ennemie personnelle qui interdisait leurs écrits et qui poursuivait leurs partisans. Une part de vérité là-dedans, c'est vrai. Il faut comprendre que l'Église a fait des erreurs. Hein. Et n'exagérons rien. C'est pas parce que quelqu'un a un rhume qu'il faut dire qu'il a le sida quand même. L'Espagne n'était plus en première ligne. Elle avait perdu l'hégémonie mondiale, qui lui avait valu évidemment des tas d'inimitiés deux siècles auparavant. Son inquisition était en sommeil. Aussi, c'est à Lisbonne, au Portugal, que s'est déroulé l'autodafé où l'on, dans le livre de Voltaire, là, on fesse Candide, puis où Pangloss est pendu pour empêcher la terre de trembler. Et le mot même d'autodafé est passé dans la langue française. Ça vient du portugais. La situation a changé au début du 19e siècle. 1800 quelque chose. D'abord, grâce à Antonio Lorente, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un ancien secrétaire de l'Inquisition de Madrid. Il n'était pas ce que nous appelons aujourd'hui un libéral. Mais l'Inquisition, telle qu'il la connaissait, ne lui plaisait guère, et il la trouvait trop indépendante du roi. Puis il y voyait l'instrument d'une espèce d'ingérence intolérable du centralisme romain, comme il y en a qui le trouvent aujourd'hui. Et puis, il était passé au service des Français lorsque Napoléon a envahi l'Espagne. Car il était convaincu qu'ils allaient faire triompher ses idées et rendre au pays son rang. Et il eut le premier un large accès aux archives, jusque-là secrètes, là, du tribunal. Et aussi, exilé en France à la chute de l'Empire de Napoléon, il a publié l'histoire de l'Inquisition espagnole, parue en 1818. Et ça, il y a des gros défauts là-dedans, puis le succès était immense. Alors les libéraux qui s'attaquaient à l'Église, se sont servis de cette histoire d'Inquisition pour nourrir leur propagande. Hein. Ah, là, ils ont parlé de l'oppression de l'Église, etc., puis ils ont chassé d'ailleurs les prêtres. Toute une iconographie a fleuri. C'est là qu'on voit ces gravures, où on voit des dominicains qui torturent des femmes nues, complètement ridicules. S'ils ont illustré des publications bon marché qui représentaient avec le plus grande fantaisie toutes sortes d'affaires, là. Des tours, des chevalets, des tenailles, des brasiers, dans lesquels on voyait des corps nus qui mouraient, de préférence évidemment des corps féminins, c'est plus sexy. Ça n'était que l'imagination des dessinateurs. Un trucage scientifique, une efficacité politique certaine a tout mené ça. Ce fut épouvantable, tel pouvoir de la propagande. À l'extérieur, il y avait l'ancienne tradition protestante anticatholique qui persistait et se teintait de nationalisme. Il faut ajouter à ça tout le libéralisme, l'anticléricalisme qui devenait monnaie courante. Hein. Comme ça existe ici, d'ailleurs, dans notre pays, avec nos émissions de télévision, où tout ce qu'on nous présente, c'est des prêtres imbéciles, alors que je connais tellement de prêtres intelligents, dévoués et généreux. Le souvenir de l'Inquisition est devenu une machine de guerre. Hein. À la tribune de l'Assemblée nationale française, lorsqu'on débattait en 1905 des lois qui ont instauré la laïcité de l'État, les orateurs citaient les historiens du Saint-Office. On parlait de ça. Le Saint-Office, c'est-à-dire l'Inquisition, si vous voulez. C'est par une série d'ouvrages qui ont posé les bases de ce que nous savons de l'Inquisition médiévale. Puis c'est alors que là, retenez ça, cet Américain Henry Charles Léa, comme Léa, j'avais une tante Léa, qui a publié son œuvre sans quitter les États-Unis. C'était un riche éditeur de Philadelphie. Il y avait des appuis politiques. Il a mobilisé en Europe toute une armée de scribes qui transcrivent pour lui les documents dans différents dépôts d'archives. C'est un protestant. Il était obsédé par l'Église catholique. Puis 80 ans après sa publication, son livre sur l'Inquisition espagnole reste pour bien des gens la référence absolue. C'est une bêtise. Ah, oh, ça me fatigue. Et on voit ça chez Verdi dans Don Carlos. On voit ça dans Dostoïevski, dans l'Inquisiteur Général. On voit ça dans Edgar Allan Poe, dans Le Puits du Puits et du Pendule. Même dans Villiers de l'Isle-Adam. C'est une pornographie pure. Et Torquemada faisait subir à une jeune juive menacée de mort toutes sortes de tortures. On voit ça dans ces histoires-là. Tout cela n'a rien à voir avec la réalité historique. L'Inquisition est un prétexte. L'Inquisiteur, un archétype. On fait ça. Et l'Inquisition est devenue l'un des symboles universellement admis où se reconnaît la culture occidentale. C'est l'image de l'Espagne, puis c'est une mauvaise image de l'Espagne. Or que je voudrais en finir avec tout ça. L'Inquisition est à la mode aujourd'hui. À cela, il y a bien des explications et les catholiques s'interrogent sur ce que la plupart d'entre eux considèrent comme une tache dans l'histoire de leur Église. Ah, les inquisiteurs considéraient que la fonction inquisitoriale était inscrite dans la nature des choses, où il voyait ça comme ça. Il le voyait avec le plus de compréhension possible. Et pour eux, il se basait sur quoi? Le premier procès inquisitorial dans le jugement que Dieu a porté contre Adam et Ève lorsqu'il les a chassés du paradis. Il s'appuyait là-dessus. Drôle de conception. Mais il y a eu des excommunications rares. Des interdictions mal respectées, d'ailleurs, de lire certains livres. C'est sûr qu'il y a eu un pouvoir de l'Église. Mais comprenons donc bien que tout a été exagéré et que l'Église en ressort blessée, mais pas blessée comme on veut bien le dire. J'en ai marre d'entendre tout ce qui se dit. Alors lisez bien l'Inquisition d'Henri Maisonneuve, paru chez Novalis et Desclés, l'Inquisition de Jean-Pierre de Dieu, paru au Serge chez Fides. Au besoin aussi, l'Inquisition espagnole, qui n'est pas si mal, de Bartolomé Benassar, mais je ne vous recommande pas l'Inquisition ou la dictature de la foi, un ouvrage couronné par l'Académie française en 83, par Jacques Pinglé. Il exagère.